Quatrième partie. Dans ce cas, répliqua Dupin, ouvrant un tiroir et en tirant un livre de mandat, vous pouvez aussi bien me faire un bon pour la somme susdite. Quand vous l'aurez signé, je vous remettrai votre lettre. Je fus stupéfait. Quant au préfet, il semblait absolument foudroyé. Pendant quelques minutes, il resta muet et immobile, regardant mon ami, la bouche béante, avec un air incrédule et des yeux qui semblaient lui sortir de la tête. Enfin, il parut revenir un peu à lui. Il saisit une plume et, après quelques hésitations, le regard ébahi et vide, il remplit et signa un bon de 50 000 francs et le tendit à Dupin par-dessus la table. Ce dernier l'examina soigneusement et le serra dans son portefeuille. Puis, ouvrant un pupitre, il en tira une lettre et la donna au préfet. Notre fonctionnaire l'agrippa dans une parfaite agonie de joie, l'ouvrit d'une main tremblante, jeta un œil sur son contenu, puis, attrapant précipitamment la porte, se rua sans plus de cérémonie hors de la chambre et de la maison, sans avoir prononcé une syllabe depuis le moment où Dupin l'avait prié de remplir le mandat. Quand il fut parti, mon ami entra dans quelques explications. « La police parisienne, dit-il, est excessivement habile dans son métier. Ses agents sont persévérants, ingénieux, rusés, et possèdent à fond toutes les connaissances que requiert spécialement leur fonction. Aussi, quand j'ai, nous détaillant son mode de perquisition dans l'hôtel D, j'avais une entière confiance dans ses talents, et j'étais sûr qu'il avait fait une investigation pleinement suffisante dans le cercle de sa spécialité. Dans le cercle de sa spécialité, dis-je, oui, dit Dupin. Les mesures adoptées n'étaient pas seulement les meilleures dans l'espèce, elles furent aussi poussées à une absolue perfection. Si la lettre avait été cachée dans le rayon de leur investigation, ces gaillards l'auraient trouvée. Cela ne fait pour moi l'ombre d'un doute. Je me contentais de rire, mais Dupin semblait avoir dit cela fort sérieusement. Donc, les mesures, continua-t-il, étaient bonnes dans l'espèce et admirablement exécutées, mais elles avaient pour défaut d'être inapplicables au cas et à l'homme en question. Il y a tout un ordre de moyens singulièrement ingénieux qui sont pour le préfet une sorte de lit de Procuste sur lequel il adapte et garrotte tous ses plans. Mais il erre sans cesse par trop de profondeur ou par trop de superficialité pour le cas en question. Et plus d'un écolier raisonnerait mieux que lui. J'ai connu un enfant de 8 ans dont l'infaillibilité au jeu de père ou impair faisait l'admiration universelle. Ce jeu est simple, on y joue avec des billes. L'un des joueurs tient dans sa main un certain nombre de ses billes et demande à l'autre, pair ou non. Si celui-ci devine juste, il gagne une bille. S'il se trompe, il en perd une. L'enfant dont je parle gagnait toutes les billes de l'école. Naturellement, il avait un mode de divination, lequel consistait dans une simple observation et dans l'appréciation de la finesse de ses adversaires. Supposons que son adversaire soit un parfait nigaud et, levant sa main fermée, lui demande « pair ou impair ?» Notre écolier répond « impair » et il a perdu. Mais à la seconde épreuve, il gagne, car il se dit en lui-même « n'y avait mis pair la première fois » et toute sa ruse ne va qu'à lui faire mettre « impair » à la seconde. Je dirais donc « impair » et il dit « impair » et il gagne. Maintenant, avec un adversaire un peu moins simple, il aurait raisonné ainsi. Ce garçon voit que, dans le premier cas, je dis « impair » et dans le second, il se proposera, c'est la première idée qui se présentera à lui, une simple variation de pair à impair, comme a fait le premier bêta. Mais une seconde réflexion lui dira que c'est un changement trop simple, et finalement, il se décidera à mettre pair comme la première fois. Je dirai donc pair, il dit pair et gagne. Maintenant, ce mode de raisonnement de notre écolier, que ses camarades appellent la chance, en dernière analyse, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement, dis-je, une identification de l'intellect de notre raisonnement avec celui de son adversaire. C'est cela même, dit Dupin. Et quand je demandais à ce petit garçon par quels moyens il effectuait cette parfaite identification qui faisait tous ses succès, il me fit la réponse suivante. Quand je veux savoir jusqu'à quel point quelqu'un est circonspect ou stupide, jusqu'à quel point il est bon ou méchant, ou quelles sont actuellement ses pensées, je compose mon visage d'après le sien, aussi exactement que possible, et j'attends alors pour savoir quelles pensées ou quels sentiments naîtront dans mon esprit ou dans mon cœur, comme pour s'appareiller et correspondre avec ma physionomie. Cette réponse de l'écolier enfonce de beaucoup toute la profondeur sophistique attribuée à la Rochefoucauld, à la Bruyère, à Machiavel et à Campanella. Et l'identification de l'intellect du raisonneur avec celui de son adversaire dépend, si je vous comprends bien, de l'exactitude avec laquelle l'intellect de l'adversaire est apprécié.